Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui d'une méthode simple pour se confesser. Avant de recenser ce que nous allons dire au confessionnal, plusieurs méthodes sont à notre disposition afin de mieux détecter nos manquements moraux ou spirituels. Certains manuels nous proposent de passer en revue les 10 commandements et de noter les transgressions que nous avons commises pour chacun d'eux. Cependant, il existe une autre démarche tout aussi efficace. Elle consiste à faire le tour de nos connaissances, proches ou lointaines, avec lesquelles nous avons des rapports. Cela peut aller des liens familiaux jusqu'à nos co-religionnaires, en passant par nos voisins, nos collègues de travail, amis ou personnes rencontrées au fil des aléas de la vie. Et à partir de ce recensement, il est possible de noter et de juger la qualité des relations que nous avons entretenues avec chacune de ces personnes. Et au nombre de celles-ci, il est bien sûr impératif de compter Dieu lui-même. Quel est l'avantage de cette méthode ? Elle permet de mieux incarner et personnaliser la transgression d'un commandement. Par exemple, en pensant à X, je m'aperçois que je lui ai menti. En songeant à Y, je repense soudainement que j'aurais pu prier pour lui, lui qui s'est fait opérer récemment. Ainsi, en faisant mentalement le tour des membres de ma famille, je m'aperçois que je n'ai pas rendu visite à N, elle qui vit un vivage difficile, isolée qu'elle est. En pensant à mes amis, je prends conscience que je n'ai pas toujours été charitable envers les absents lors de nos discussions. Plus globalement, je me rends compte que je n'ai pas assez supplié le Seigneur afin qu'il se manifeste à ceux que j'aime. Je les ai aimés trop humainement et pas assez théologalement. De la sorte, avec ces visages connus dans la tête, mes manquements prennent soudain chair plus facilement. Et cette méthode n'a rien d'arbitraire ni de fantaisiste, pour la simple raison que le péché, dans la religion chrétienne, est toujours une affaire de personne à personne. En effet, avant d'être la transgression d'une loi abstraite, le péché est une blessure infligée à autrui ou à Dieu. Quand je vole ou que je mens, ce n'est pas le franchissement de la bande jaune qui compte, mais d'abord le tort que j'ai infligé à mon prochain. Ainsi, il s'agit de passer de l'obsessionnel au relationnel. La relation est première par rapport à mon obsession d'être en règle. D'ailleurs, cette fixation sur la règle ou la loi peut traduire une trop grande considération narcissique, ou un retour sur soi qui vire au dépit introverti. Je n'ai pas été à la hauteur de l'idée trop favorable que je me faisais de moi-même. Or, ce n'est pas ainsi que je parviendrai à la vraie contrition, mais plutôt en prenant la mesure de la blessure que j'ai infligée à celui qui est mon ami, mon voisin, ou simplement mon prochain pour lequel le Christ a donné sa vie. Ainsi, avant d'être une souillure, le péché constitue une faute contre la charité. Comme je le disais, cette façon d'appréhender le péché s'harmonise parfaitement avec la nature de notre religion. Car loin de se réduire à un inventaire de lois, la foi chrétienne est avant tout une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'abord d'obéir à un code législatif, mais de faire route avec lui, de sorte à nouer amitié et amour. Autrement dit, c'est la relation de personne en personne qui est première dans la foi chrétienne. Ainsi, les écrits les plus importants de la Bible, les évangiles, ne sont pas une compilation d'obligations ou de règlements, même s'ils s'en trouvent, mais quatre récits d'une même vie, celle de Jésus de Nazareth. Or, si Dieu se révèle, se dit dans une histoire, c'est afin de nous faire comprendre que la relation personnelle, qui est toujours tissée et issue d'une d'histoire, de péripéties et d'événements, cette relation personnelle est première par rapport à la loi. Toutefois, loin d'être moins exigeante pour nous, cette révélation de Dieu dans une histoire nous oblige au contraire davantage, car alors ce n'est plus notre conformité à un code de loi qui est en jeu, mais notre réponse à l'amour que Dieu nous a offert, notre oui à sa proposition d'alliance entre lui et nous. Cette alliance que raconte dans ses péripéties concrètes le récit évangélique. Face au crucifié du Golgotha, nous prenons davantage la mesure de nos manques de charité que devant les tables de la loi. La tristesse de Jésus à Gethsémani bouleverse tout notre être, alors que la simple transgression de l'article des 10 commandements ne fera que fouetter notre vigilance et notre résolution à ne pas recommencer à l'avenir. La colère d'un Dieu pointilleux sur le règlement n'obtiendra jamais le repentir que suscite en nous Jésus agonisant au jardin des Oliviers et sur le Golgotha. L'amour vécu, offert, exposé, gratuit, mendiant, l'amour désarmé et pauvre, cet amour, visible sur la sainte face de Jésus, est plus exigeant que la loi. Pour démontrer la dimension relationnelle du péché, il n'est qu'à se pencher sur le psaume pénitentiel par excellence, le Miserere, le psaume 51. Insensiblement, dans la trame de sa prière, l'auteur du psaume passe du registre de la souillure, de la tache, en demandant à Dieu d'effacer, de laver, de purifier, au registre relationnel, en avouant « Contre toi et toi seul j'ai péché ». Au final, c'est en confessant l'amour paternel de Dieu que l'auteur du psaume intègre en les dépensant toutes les facettes de sa culpabilité, car ce qui compte, ce n'est pas d'abord la tache du péché, la souillure, mais la blessure que le pécheur a infligée à Dieu, et aussi à Uri, que Dieu a fait assassiner. Il s'agit donc de passer du regard sur soi à la considération d'autrui et au mal que je lui ai causé. Voilà des considérations qui pourront aider les pénitents que nous sommes tous à trouver matière de péché à confesser dans le sacrement de pénitence réconciliation. De la sorte, nous serons bien préparés pour goûter la joie pascale avec des cœurs purs. Ce cœur pur que l'auteur du psaume du Miserere demande à Dieu de créer en lui. Munis de ce cœur pur, nous serons alors capables de nous réjouir avec Jésus de la miséricorde que le Père fait aux hommes en général et à chacune de nos connaissances en particulier, le jour de Pâques en ressuscitant son Fils. Car comme le péché, qui est le revers négatif de la résurrection est affaire, elle aussi, de relations personnelles. En effet, la grâce pascale est appelée à se répercuter sur les liens concrets que nous entretenons avec nos proches.